Chargé de recherche et plaidoyer sur la souveraineté alimentaire au Centre national de coopération au développement, Stéphane Deguin était l'invité de la locale de Bruxelles de Nature et Progrès à l'occasion d'une conférence débat sur la crise alimentaire. Agroécologie, relocalisation et souveraineté alimentaire sont des solutions que vous allez maintenant entendre dans l'analyse de cette problématique effectuée le 5 octobre 2016 à la salle Fairtrade de Mundo B.
Vous avez sûrement déjà entendu de tous ces termes, on ne s'y retrouve pas. Agriculture familiale, agriculture permaculture, agriculture durable, agriculture paysanne, souveraineté alimentaire, agroécologie, l'agriculture intelligente face au climat, agriculture de la révolution verte, agriculture doublement verte, agriculture écologiquement intensive, agriculture de conservation. Vous vous y retrouvez, vous, dans tout ça ? La biodynamie. La biodynamie, c'est vraiment très très loin. Voilà. Est-ce que... Oui, il y a aussi méthode Steiner qu'on applique sur les champs et puis dans les écoles. Je ne sais plus dans quel ordre ça a été. Enfin, en tout cas, il a fait les deux, je crois. Je ne m'y connais pas bien. Je ne vais pas aller sur le terrain de Steiner. Je comprends pas. Je ne connais pas bien le bonhomme. En fait... Ah, oui, voilà. Bon, donc... Ouais. Je pourrais rajouter souveraineté alimentaire, enfin, le droit à l'alimentation. Tout ça, c'est des termes qui défendent... Alors, il y a dans cela certaines qui sont... qui se recouvrent et qui sont intéressantes, qui se peuvent se compléter et qui peuvent être des alliés. C'est que les gens qui sont là derrière sont des alliés, comme on retrouve des plantes. Il y a de la biodiversité dans ces projets-là. Et donc, c'est pas forcément inquiet. Il n'y a pas de chapelle. Il faut pas. Bien souvent, en travaillant depuis 16 ans au CNCD, mais depuis 10 ans dans le secteur de l'agriculture, je me rends compte que quand on discute avec des pionniers du bio, tu retrouves les mêmes volontés de respecter les cycles naturels, respecter les sols, s'ancrer dans le territoire, avoir des liens et de confiance avec les autres acteurs, c'est-à-dire les gens qui sont autour, ceux qui vont transformer, et si possible le consommateur, qu'on le connaisse sous tous ces liens-là. C'est des choses qui étaient essentielles pour les défenseurs de l'agriculture biologique au tout début. C'est des gens qui étaient pour intégrer la question sociale. Ce qu'est devenu l'agriculture bio dans la tête des gens, c'est ce qu'est devenu l'agriculture labellisée par l'Union européenne, qui consiste à donner quelques critères à respecter. Pas d'utilisation d'intrants chimiques, c'est-à-dire pas de pesticides, pas d'engrais, enfin, avec certains qui sont autorisés, mais une très petite série, pas d'OGM, et puis c'est tout. Mais pour les défenseurs de l'agriculture biologique, vous le savez bien, Nature et Progrès a été un pionnier. C'est-à-dire, si l'agriculture biologique s'est développée, c'est bien parce que Nature et Progrès l'a fait au début. Mais c'est à se retourner dans sa tombe, parce que les gens vont se dire, mais attendez, quoi, on ne parle pas de matière organique dans le sol ? On ne parle pas de la vie du sol ? Mais faire de l'agriculture en mettant de la monoculture 3 hectares de haricots sans mettre d'engrais et en faisant dans des désherbants thermiques et pas de pesticides, je veux bien, mais si c'est pour employer des gens sans papier à la récolte, c'est pas de l'agriculture biologique non plus. Parce que moi, dans mon projet d'agriculture biologique au début, j'avais aussi la volonté de défendre un métier qui soit respecté, qui gagne sa vie décemment. Donc voilà pourquoi on a ces excellents bouquins qui sont sortis, qui ont critiqué le bio, en rappelant qu'il y a une perversion, un détournement du projet. Et je comprends que certains fervents et initiateurs de l'agriculture biologique chez Nature et Progrès soient bien ennuyés que des citoyens leur rappellent « Mais qu'est-ce que c'est que ce bio à la con qui a fait 6000 km ?» Hein, et c'est très juste. Ou bien le troisième qui va te dire « Ça, c'est du bio, mais les gens qui l'ont récolté, c'est des esclaves. » Et c'est vrai. Donc, on a tout ça pour dire qu'en fait, derrière les gens qui défendent l'agriculture biologique, ceux qui défendent l'agriculture paysanne. Comment est-ce qu'on va définir l'agriculture paysanne ? L'agriculture paysanne, on va la défendre comme une agriculture qui tient compte des savoirs paysans, qui tient compte d'un certain mode de vie avec des transmissions de savoirs ancestraux, en respectant l'endroit où on est né. Bien sûr, une petite dimension. Du coup, on a parlé d'agriculture familiale. Alors, l'agriculture familiale, c'est un terme qui est très flou, parce que c'est quoi la définition de l'agriculture familiale ? La définition de l'agriculture familiale, c'est une agriculture dans laquelle la famille est détenteur des moyens de production, pour faire une définition qui est consensuelle qu'on peut trouver. Donc, en fait, en gros, c'est la famille qui, en gros, a l'essentiel des moyens de production. La terre leur appartient, la ferme est aussi à eux, et le tracteur est à eux aussi. Bon, mais... Ça ne suffit pas de définir l'agriculture familiale. Quand on dit agriculture familiale, en Afrique, on voit tout de suite laquelle c'est. C'est-à-dire que c'est des gens qui, globalement, ne vont pas utiliser de pesticides, d'engrais, parce qu'ils sont dans des petites surfaces et qui n'ont pas les moyens de rêver d'une hyper-mécanisation, d'une chimisation, etc. Mais l'agriculture familiale en Belgique, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que la grande majorité des acteurs peuvent être familiaux et appliquer un modèle tout à fait hors sol. Vous pouvez être tout seul, être à mi-temps, et avoir 40 000 poulets hors sol. Hein. c'est pas un projet, d'ailleurs c'est pas évident, mais c'est pas très, mais c'est une agriculture familiale. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté après d'autres disent moi je suis pour l'agriculture familiale mais durable. Alors il faut rajouter mais qu'est-ce que c'est que durable? Voilà. Alors donc il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui viennent des paysans et puis il y a les écoles qui viennent de ce qu'est partie la révolution verte. Et puis après on voit une déclinaison de termes derrière lesquels se trouvent toujours les mêmes projets. Derrière le terme d'agriculture de type révolution verte, on va retrouver aujourd'hui les termes comme l'agriculture industrielle intensive. On va retrouver dans une moindre mesure une agriculture raisonnée, vous le savez. Et l'agriculture raisonnée, elle fait quoi? Vous le savez ou pas? Elle se dit, mais on a fait des excès dans l'utilisation d'intrants, de pesticides, des engrais, et on va pas remettre en cause le système économique dans lequel on est. Il faut que ça soit rentable. Et pour être rentable, on est dans une filière, c'est-à-dire que je fais des patates. Et donc, si je fais des patates, il faut que je les vende. Je dois faire le plus de surface possible parce que j'ai des contrats avec le patatier. Voilà. Et donc, je dois essayer de faire des rotations le moins souvent possible parce que le plus souvent je peux venir avec mes patates, mieux c'est. Mais je me rends bien compte quand même que quand je déverse 3 sacs d'engrais en trop, je n'ai pas le meilleur résultat et ça m'a coûté de l'argent. Donc, l'agriculture raisonnée, elle se dit, je dois essayer de un peu moins déconner avec l'environnement. Parce que c'est pas très malin d'en dépenser trop, c'est pas très malin pour la biodiversité de mettre trop de pesticides, donc je vais essayer de faire une agriculture mieux réglée. On l'appelle raisonnée, elle peut être de précision. Et certains l'appellent par moments l'agriculture écologiquement intensive. C'est, ils remettent pas en cause le modèle économique dans lequel on est, mais on essaye d'être au plus près. Et dans l'agriculture écologiquement intensive, c'est pour ça qu'on n'est pas toujours content derrière ce mot, parce qu'on dit « ah, c'est de l'agriculture écologique, mais qui veut avoir tiré le maximum », bon, alors c'est sympa. Eh bien, derrière ce terme, il y a des projets qui sont très bien, et d'autres qui le sont moins. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont excessivement demandeurs de capitaux. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent « oui, mais moi, je vais venir avec des pulvérisateurs, mais il va y avoir une caméra infrarouge, et on va mesurer... » Parce que dans un champ, parfois, ce que faisait avant, c'est on a vu qu'il y avait 4 régions dans le sang qui étaient contaminées. Eh bien, ce que l'on vend aujourd'hui aux agriculteurs, c'est des systèmes GPS avec des petits drones qui vont faire un tour au-dessus du champ. Je déconne pas, hein. C'est ce qui se passe maintenant. Ils envoient un petit drone qui passe au-dessus du champ, ils ont calculé la surface là où il fallait pulvériser, et puis ils passent avec son machine, ils rentrent le programme, et puis les petits injecteurs de pesticides ne s'alimentent, ne se mettent en route qu'aux endroits où on a un champignon, un insecte, une attaque quelconque. Et donc, on ne peut pas dire que c'est mal, hein. Pourquoi pas, c'est bien. Mais on est quand même encore dans le même modèle. C'est-à-dire que on n'a pas remis en cause le principe de la monoculture. On n'a pas remis en cause le fait que ces pesticides et ces engrais, en fait, ils nient des choses que la nature aurait pu faire gratuitement, mais qui demandent des savoirs que l'on n'a plus. Et donc, effectivement, et c'est une agriculture qui se prétend extraitive, de grande technicité. Or, moi, je pense que l'agriculture qui consiste à bien comprendre comment, en mélangeant les plantes, en faisant des rotations, en tenant compte de la vie des sols, on a une agriculture qui demande encore plus de technique et de savoir. Et donc, l'agriculture la plus intelligente, c'est justement celle qui, parfois, ne se présente pas comme intelligente. Elle se dit agriculture paysanne, elle se dit agriculture biologique, ou elle se dit permaculture. Mais c'est une agriculture qui fait appel à énormément de savoirs, qui sont d'ailleurs... Pas toujours transmissible, parce que ce qu'on a découvert dans sa région, c'est le bonhomme qui est à 100 km, il n'a pas la même terre, il n'y a pas le vent du même côté, ça ne marchera pas forcément. Ces trucs, ça s'apprend, c'est fort lié à un savoir qui s'acquiert aussi d'expérience, de vie, et donc c'est des savoirs qui se sont perdus, se recréent lentement. Je parlais d'agriculture intelligente, il y a un terme que vous n'avez peut-être pas entendu utiliser, mais ça s'appelle, surtout en anglais, il appelle ça la climate smart agriculture, c'est l'agriculture intelligente face au climat. Et ça, c'est aussi un terme piège, c'est-à-dire qu'on se dit, ça c'est sympa, et ils vont enfin faire une agriculture qui va essayer de ne pas rajouter trop de gaz à effet de serre. Et derrière cette définition, c'est une définition qui a été lancée par la FAO, sous le lobby de grandes entreprises, et qui a lancé ce projet, se rendant compte qu'il fallait réagir par rapport au dernier rapport du GIEC, qui prétend que la diminution de la production dans le monde liée au climat risquait d'amener une augmentation des crises alimentaires de 15 à 40%. Ça a fait quand même un petit peu peur dans le secteur. Ils se sont dit, bon, on doit quand même changer. Et on a mis en place ce programme qui a été mis en place, soutenu par une alliance, et dans lequel on retrouve aussi bien quelques projets d'agroécologie, en disant, mais voilà, quand on applique une agriculture agroécologique, en fait, plutôt que d'avoir une agriculture qui émet des gaz à effet de serre, on a plutôt tendance à avoir les anglophones disent une agriculture qui refroidit la planète parce qu'elle remet du carbone dans le sol, puisqu'on remet de la matière organique dans le sol, et donc tout ce carbone qu'on immobilise dans le sol, ça a plutôt tendance à diminuer le CO2 de l'air plutôt que de l'augmenter. Mais comme la définition de ce projet d'agriculture intelligente est très très floue, eh bien il donne la porte ouverte à tout. Et surtout, un détournement de ce que la majorité des gens entendent et les politiques. Nous avons fait une tournée en Belgique pour essayer de dire qu'il ne faut pas financer en Belgique les projets de Climate Smart Agriculture, dans l'agriculture intelligente face au climat, parce que dans les faits, le discours est tenu par des entreprises vendeuses d'engrais, essentiellement. Les premières entreprises, elles sont en nombre très important et elles veulent vendre des engrais. Comment est-ce qu'elles arrivent à, derrière un projet d'agriculture intelligente aussi climat, vendent des engrais, alors que pour ceux qui sont chimistes dans la salle, ils savent qu'il faut 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Donc en fait, les engrais, c'est très énergivore, donc très utilisateur d'énergie fossile. Eh bien, ils basent le projet en disant, nous allons résoudre le problème du climat en augmentant les rendements à l'hectare. Et ça, c'est très utile d'augmenter les rendements à l'hectare parce que ça permettra de ne pas devoir déforester, puisque dans le futur, si nous sommes 9 milliards comme on le dit, il faudra alors déforester les forêts. Et tout le monde sait très bien que quand on déforeste, ce n'est pas bon pour le climat. Alors, on peut dire des bêtises comme ça quand on est en face de publics qui ne connaissent pas les enjeux. Mais le problème, c'est donc que ça marche assez bien, ce discours, parce qu'évidemment, leur proposition qu'ils font, c'est d'augmenter les rendements à l'hectare par la vente d'engrais. C'est ça, le projet. Il y aura, dans les projets soutenus par la Climate Smart Agriculture, quelques projets d'agroécologie ou d'agroforesterie. La Belgique, aujourd'hui, l'a fait, la région Wallonne. C'est un projet soutenu au niveau international par la FAO, dans lequel des entreprises ont mis des sous pour que ça commence, mais c'est surtout, ils vont chercher des fonds publics et des fonds climat, et donc, eux sont allés chercher des fonds climat. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des sous qui doivent servir pour le climat en disant, mais nous allons faire de l'agriculture intelligente. Donc, ce sont des vendeurs d'engrais qui arrivent à récupérer, et de plus en plus, on a ça, des organisations qui arrivent à mettre la main sur des budgets publics qui doivent servir soit au climat, soit à de la coopération. Je peux vous prendre un autre exemple après avec la NASAN, la nouvelle alliance pour une sécurité alimentaire, une sécurité alimentaire et la nutrition, qui était un projet défendu par le G7, l'Union européenne finance ça à hauteur de 1 milliard d'euros. Et une fois de plus, c'est des grandes entreprises du modèle agro-industriel de la Révolution verte qui vont chercher les sous pour aller dans la bonne direction. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont de nouveau vendre des engrais, des semences certifiées en disant, mais voilà, on va résoudre le problème de la faim dans le monde ou résoudre le problème du climat en disant qu'il faut augmenter la productivité. Et c'est là qu'il y a un mensonge éhonté. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, pour résoudre le problème de la nutrition dans le monde, on ne devra pas forcément déforester quand on sera 9 milliards. Par contre, on sait que dans beaucoup de régions du monde, on peut produire plus à l'hectare sans avoir besoin d'engrais, en ayant des pratiques agricoles qui augmentent très fortement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Olivier de Schutter, c'est des réseaux de chercheurs qui, depuis ISTAT, ce réseau international, le disent, on peut augmenter, sans avoir besoin de milliards et de milliards, la productivité de nombreuses régions du monde qui sont des terres agricoles. On peut augmenter la production à l'hectare en pariant sur les agriculteurs, en les aidant, en leur faisant confiance et en appliquant des techniques qui sont accessibles aux paysans, où on va augmenter leur rendement à l'hectare, simplement sans avoir besoin d'avoir recours à un package technologique que veulent absolument vendre les grandes entreprises. Et ces packages technologiques, le Parlement européen l'a décidé et a fait une communication en disant il y a un vrai danger, parce qu'on voit aujourd'hui, pour les programmes qui ont commencé depuis 2002 et puis depuis 2015 pour certains, que les paysans qui bénéficient de cette aide se retrouvent endettés. Parce qu'ils ont acheté des engrais. On leur a dit, oui, mais il faut distribuer des engrais, c'est bon pour le climat. Mais on ne les a pas donnés à ces engrais. Ils sont vendus, bien sûr. Et donc, tous ceux qui vendent moins d'engrais en Europe, ils veulent les vendre un peu plus en Afrique. C'est un nouveau marché. Et donc, on est dans un piège où, une fois de plus, on reproduit la révolution verte avec tous les pièges dans lesquels on est, avec une méconnaissance en disant, en fait, le climat, on va devoir déforester. Mais pas forcément. On sait qu'on a des études qui montrent qu'on peut augmenter la productivité à l'hectare avec des méthodes douces, avec des méthodes paysannes, avec des méthodes agroécologiques qui respectent les cycles de la nature en faisant voilà. Donc ça, c'est il faut être très méfiant parce que derrière des mots qui paraissent sympathiques, il y a des projets qui sont pervers. Et ils ont l'intelligence en plus de mélanger dans ce package quelques projets intéressants avec beaucoup de projets qui ne le sont pas. Et c'est là la difficulté parce que il est vrai que dans ce projet d'agriculture intelligente face au climat, il y aura quelques projets intéressants. Et donc, je serais bien coincé de me dire « Ah oui, donc tu es contre les projets d'agroforesterie en Tanzanie ?» On va me donner deux exemples. Je dis « Mais non, ce projet-là est intéressant. » Mais quand je fais la longue liste des projets soutenus par ce financement-là, eh bien, j'ai 3% de projets agroécologiques et beaucoup d'autres projets qui sont des projets de type révolution verte. Et là, il y a un problème parce qu'on sait aujourd'hui que ce type d'agriculture, il est sans issue. Et l'autre projet qui, lui, vise à utiliser non pas des budgets climatiques, mais des budgets de coopération. C'est la NASAN, donc la Nouvelle Alliance pour une Sécurité Alimentaire et la Nutrition, et qui est aujourd'hui très fortement financée par l'Union européenne. On est le premier contributeur de cette alliance-là, par le G7. Mais c'est de nouveau, une fois de plus, des sous qui vont vers un modèle agricole qui consiste à proposer aux agriculteurs de devenir des bons consommateurs de produits phyto, de prenant engrais, parce que c'est un marché qui... Donc c'est incroyable comme quoi des multinationales arrivent à mettre non plus les mains basses sous les budgets des acteurs, ils veulent maintenant même aller chercher les sous publics qui devraient servir des intérêts généraux. Donc il y a une méfiance à avoir. Alors, par contre, derrière l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, les projets de droit à l'alimentation, l'agriculture biologique quand elle est la plus respectueuse de l'esprit des initiateurs du débat... même l'agriculture de conservation, quoique l'agriculture de conservation, c'est encore un terme un peu flou, c'est une agriculture qui dit on doit faire attention au sol. Donc c'est vraiment une agriculture qui ne remet pas en cause le modèle, la séparation, la spécialisation des agriculteurs, mais eux font attention au sol. Ils disent on doit faire attention, on ne peut plus labourer n'importe comment, on doit moins travailler le sol, on doit faire plus de rotation des cultures, on doit laisser plus de couvert sur le sol, parce qu'un sol qui n'est pas couvert, c'est un sol qui souffre du vent et de l'érosion par le vent et l'érosion par l'eau. Donc c'est une agriculture qui essaye de changer, mais je la dis mettrai entre les deux, un petit peu comme on mettrait, je ne sais pas moi, une agriculture durable ou voilà. On est dans une agriculture qui n'a pas encore fait le choix, mais qui commence à se rendre compte qu'elle doit changer ses pratiques. Elle n'a pas remis en cause le fonctionnement même du modèle qui a amené toutes les dérives, c'est-à-dire cette dépendance au pétrole, aux intrants chimiques, et une filière qui fait que les acteurs sont confinés à n'être que des producteurs de matières premières. Tant que l'agriculteur est confiné dans ce rôle-là, qu'il ne transforme plus, ils sont très dangereux, ils sont très, très dépendants. C'est pour ça que tant d'agriculteurs, quand ils ont la possibilité de le faire, ils essayent de refaire de la diversité. Ils transforment à la ferme, ils accueillent, ils font des fermes-écoles, enfin, il y a plein de choses, mais c'est des stratégies de survie. Alors, voilà, c'est des stratégies qui sont mises en place pour remettre de la diversité dans l'économie d'une ferme, dans ce qui est possible de faire. Il faut essayer d'être très tolérant par rapport aux agriculteurs parce qu'ils sont dans une difficulté. Et bien souvent, ils se sentent toujours attaqués par les milieux et défenseurs de l'environnement. Ce qu'il faut faire, c'est il faut vraiment aller vers eux et tisser des liens. C'est ce que font toutes ces AMAP, ces projets. Il y a des gens qui soutiennent non pas seulement des acteurs qui sont déjà tellement bien, mais des gens qui acceptons dans nos paniers de légumes, acceptons dans nos épiceries des gens qui vont changer, qui sont pas parfaits, mais qui sont prêts à le faire. Et donc là, on a intérêt à ouvrir notre porte et notre cœur vis-à-vis de leurs pratiques, parce que bien souvent, ils sont peut-être encore en train de faire de la monoculture, du poireau, du ceci ou que du lait. Et la seule diversité qu'ils ont réussi à rajouter, eux, c'est de faire un peu de fromage à la ferme éventuellement, ou d'accueillir des enfants. Enfin, tu vois, en fait, ils ont des stratégies. Et je pense que beaucoup d'entre eux sont s'ils se frottent à nous, ils sont prêts à changer. Mais il faut être, nous aussi, pas trop attaquants. Il faut connaître l'histoire dans laquelle ils ont été pour être, à ce point-là, enfermés dans un modèle non durable. Et ça, c'est la voie du futur. La voie du futur, c'est que les citoyens, les secteurs des circuits courts et d'autres, accompagnent, soient en soutien et acceptent, mais il faut que ce soit donnant-donnant. On accepte de les soutenir, mais alors eux, ils acceptent aussi de remettre en cause et de faire un changement. Mais c'est pas facile. Certains, ils le sont, ils sont prêts à le faire. D'autres te diront, moi, je ne sais pas tout faire. Et ça, c'est dans l'échange qu'on pourra voir jusqu'où on peut aller. Il faut jamais oublier que nous, citoyens, quand on a notre métier, moi, j'ai un métier, vous avez un métier, vous avez un salaire qui tombe à la fin du mois, les changements que vous proposez aux paysans de faire, ça ne vous coûte pas grand-chose. Hein, votre panier de légumes, ce n'est pas ça qui vous met par terre. Même aller à l'épicerie, ce n'est pas ça qui change grandement votre finance, parce que globalement, on s'y retrouve. Mais lui, faire ces changements de vie, c'est des gros changements de revenus, c'est des grosses incertitudes. Ça peut peut-être ne pas être un changement de revenus, ça peut être une grosse incertitude. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Tu me demandes de planter ça, mais qu'est-ce que tu feras quand j'aurai... Qui va payer quand j'aurai une mauvaise récolte? Qui va, dans les essais que je vais faire... Ils sont en danger. Il y a une période difficile pour eux. Ce changement, c'est un moment où ça va être particulièrement précaire. Pourquoi? Parce qu'on le sait en plus. Pour certains, ils ont tellement abîmé leur sol qu'il ne va pas être fertile tout de suite. Donc, si tu leur demandes de produire bien, mais dans un sol qui était abîmé, il va falloir leur nourrir. Tout ça, ça, en tout cas, les acteurs que je connais, parce qu'on se frotte à eux, ils ont mis 10 ans à changer. Souvent, ils ont mis 10 ans, voire plus. Vincent Delobel, que vous connaissez peut-être, qui est adorable, qui est un jeune qui fait du fromage de chèvre dans la ferme, la chèvrerie de la Croix Grise, dans le Tournaisis, qui est aussi qui n'a que 24 ans, qui fait des études à Wageningen, qui est un chercheur paysan. Il est impressionnant, mais aujourd'hui, s'il en est là, c'est parce que ses parents ont fait le changement en abandonnant l'élevage classique et en abandonnant le laitier classique et qui en sont arrivés à faire du fromage de chèvre bio. Mais si lui a cette ouverture d'esprit-là, s'il est à ce point-là intéressant, nourrissant, enthousiasmant quand on le voit, il a mis un processus, il récolte les fruits de ses parents. Donc nous, on va devoir changer avec les acteurs. Alors il y a des gens qui démarrent, il y a des jeunes nouveaux, on appelle ça les NEMA, les non-issus du milieu agricole, les NIMA, pardon. Et il y aura des nouveaux paysans, des gens qui viennent des villes, qui sont des gens très attirés par l'agriculture, qui vont une fois sur deux se casser la gueule d'ailleurs. Mais il faudra les accompagner aussi, qui vont avoir plein d'enthousiasme, des beaux parleurs comme moi, et qui vont se casser la gueule. Je le vois, moi, parce que je parle beaucoup, mais quand je fais dans mon potager, ça ne marche pas terrible pour l'instant. Donc, il va falloir être très... Donc, la solution, c'est ce vrai maillage, cette vraie construction de projets ensemble paysans, défenseurs de l'environnement comme la Tagora, et ces réseaux citoyens d'écoulement de cette nourriture. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, ils ont lancé le réseau de toutes ces organisations qui travaillent sur la culture familiale, paysanne, l'agroécologie. Ils ont fait, l'année passée, ou c'est au début d'année, je ne sais plus maintenant, parce que le temps coule, va vite, ils ont fait une proposition de formation à l'agriculture urbaine. Il y avait tout de suite de se lancer. Hein. Ce n'était pas pour apprendre comme ça à planter des plantes. C'était un vrai projet économique. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Ou est-ce que vous êtes prêt? Les formations récoltent un succès assez important de gens non issus du milieu agricole. Alors parfois, il y en a qui fantasment. Hein. Ils se rendent compte après que c'est difficile. Et c'est difficile parce que moi, je veux le dire, je vous le dis, je le rappelle partout. Ne prenez pas l'exemple du maraîcher qui s'en sort pour croire que ça marche. Les gens galèrent. Même au champ des cailles, s'ils comptent l'heure et gagnent moins de 9 euros de l'heure en travaillant. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui gagnent ça. Donc, il faut que l'on réfléchisse à augmenter les revenus, qu'on les aide, qu'il y ait des réflexions sur faciliter le travail manuel. Est-ce qu'il y a un petit peu de mécanisation? Je ne sais pas, il faut faire gaffe, parce que dès qu'on met le doigt dans l'engrenage de la mécanisation, jusqu'où on va aller. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais donc, des gens qui démarrent, il y a des formations qui démarrent. Il y a des formations certifiantes en agriculture biologique dans la haute école de Namur à Ciné. Il y a une formation en agroécologie qui a été lancée par Marjolaine Visseur entre universités. Ça bouillonne. C'est incroyable. Pour tous ceux qui essayent de suivre, que ce soit Sébastien Kenes, des gens du MAP, des gens... On n'arrive pas à savoir tout ce qui émerge. C'est incroyable. C'est enthousiasmant, mais on n'arrive pas à savoir tout ce qui se fait. Donc, il y a une évolution, même dans les formations. Elles sont en train de changer pour les formations qui étaient historiquement donné aux enfants d'agriculteurs qui allaient reprendre la ferme, mais il y a des formations qui sont plus spécifiques, données par même des mouvements paysans. Le MAP donne des formations, l'école de l'EPI donne des formations qui sont d'introduction à gérer un verger, se lancer dans l'autonomie fourragère pour ceux qui sont dans l'élevage. Donc il y a des cours qui sont donnés à tous les niveaux, et il y a des cours qui sont donnés par des mouvements paysans qui le font en concertation avec des chercheurs, d'autres le font avec des organisations environnementales. Donc ça se frotte les uns les autres et on partage nos savoirs. Vous savez, les premières formations pour la souveraineté alimentaire dans les UNIF, ça a commencé par des ONG qui ont commencé. Maintenant, ils commencent à le faire eux-mêmes. Ils ont écrit les premiers cours et puis c'est les profs qui ont pris. En fait, on est allé mettre une graine là, comme on fait de la biodiversité, on est allé parler de souveraineté alimentaire dans les écoles pour qu'on reparle de cet enjeu-là. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples de décider de politique agricole. En fait, la souveraineté alimentaire, elle était inventée par les mouvements paysans qui voulaient lutter contre l'OMC. Donc, ils voulaient défendre le droit d'avoir une politique qui était protectionniste. Parce que comme on ouvrait tous les marchés, ils ont dit on ne va pas s'en sortir. Si on nous met tous en compétition les uns contre les autres, toute la paysannerie au niveau mondial, elle va disparaître. Et donc on a défendu l'idée de la souveraineté alimentaire. Mais ceux qui défendaient la souveraineté alimentaire, ils défendaient aussi une agriculture paysanne, ils défendaient aussi une agriculture biologique, ils défendaient aussi une agriculture qui détruit pas l'environnement. Et donc derrière la souveraineté alimentaire, vous pouvez retrouver tous les concepts. Les gens qui défendent le droit à l'alimentation, c'est des gens qui utilisent le droit international comme outil juridique pour imposer aux États d'aller dans les directions d'une agriculture qui respecte les droits fondamentaux, les droits à la nutrition, mais aussi les droits des paysans. Donc, par exemple, empêcher la concentration des terres, empêcher le land grabbing, donc l'accaparement de terres. C'est à ça que ça sert le droit. Et derrière le droit, les gens qui défendent le droit à l'alimentation, tu vas retrouver les mêmes de ce que ceux qui défendent la souveraineté alimentaire ou l'agroécologie ou l'agriculture biologique. Donc, on voit que toute cette nébuleuse de projets, qu'ils soient appelés permaculture, agroécologie, souveraineté alimentaire, droit à l'alimentation, c'est des organisations qui, en fonction de ce qu'ils portent un projet assez cohérent. Et tout ça va dans le même sens, et c'est foisonnant d'initiatives qui partent beaucoup à la base, qui ne se voient pas énormément, parce qu'on n'a pas idée que le projet des grosses légumes dans le sud du Luxembourg colle avec le projet qui se passe à Jeanblou, a un lien avec ce qui se passe au Tanneur, le troisième, et tout ça soutenu par des chercheurs qui se forment, qui font des réseaux. Il y a on a un réseau de chercheurs qui sont organisés au niveau belge, qui s'appelle Giraffe, et puis il y a les jeunes qui sont organisés sous forme de Jaguar, et puis eux-mêmes sont en train de lancer un réseau européen de chercheurs en agroécologie. Ça n'existait pas il y a 3 mois. Donc je vous dis, on est en train de vivre un truc foisonnant, très nourrissant, et dans lequel on n'arrive pas à suivre tout ce qui se fait. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux défendre, quoi que ce soit? Si à un moment, à un endroit d'une région du monde, on développe un projet qui est mis par terre parce qu'arrivent des excédents, des déchets ou des produits faits par d'autres dans des conditions qui ne sont absolument pas celles-là. Voilà, alors tu peux essayer de constituer une masse des citoyens qui sont convaincus que même s'il arrive du riz 3 fois moins cher ici, même s'il arrive des tomates 3 fois moins chères, eh bien je ne les accepterai pas et je continuerai à soutenir le projet. Ça demande qu'une grande partie de la population soit consciente de tout ce qu'il y a derrière une tomate et tout ce qu'il y a derrière un prix. Ça, c'est pas facile. Tant qu'existe ce modèle économique de compétition mondiale, ça va être très difficile. Mais on le fait quand même. Je veux dire, il y a des décisions politiques en région wallonne. On a Di Antonio, on a René Collin, on a Frémaux. Il y a des choses qui se font. On fait Good Food à Bruxelles. Alors, est-ce que c'est assez? Non, bon, d'accord. Mais moi aussi, je trouve que c'est trop restreint. Bien sûr, je me dispute avec Colin parce qu'il n'a pas une vision assez ambitieuse et qu'il est trop lobbyé par... Mais fondamentalement, le vrai premier changement de blocage, c'est qu'il est très difficile pour eux de sortir d'une Europe ouverte sur le monde, qui veut prendre des parts de marché chez les autres et essayer d'en laisser le moins possible ici, mais qui quand même les laisse rentrer. Donc, reterritorialiser, relocaliser, c'est la façon que nous avons trouvé, nous citoyens, de remettre en cause l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire quand nous, on recrée du lien en faisant un circuit court, eh bien, il a beau arriver des produits qui sont avec une plus jolie publicité, avec de plus jolies couleurs et plus d'emballages, donc attirant pour le plaisir d'ouvrir, parce que depuis qu'on est petit, on aime bien ouvrir des cadeaux. C'est un cadeau chaque fois que tu emballes un emballage, c'est génial. Ah, chouette! Bon, dès que tu envoies, la bouffe est emballée pour ça. Aussi pour des raisons qu'elle reste longtemps dans les camions, dans les frigos, qu'elle soit vendue partout. Mais c'est, voilà. Donc tout ça, je dévie avec les cadeaux, mais donc on est coincé par ce changement, et donc ils ont du mal à accepter un changement de projet économique qui est assez radical. Donc, on arrivera à les convaincre de ce projet. On ne peut pas leur demander aujourd'hui, écoute, tu vas remettre en cause le libre-échange avec les États-Unis. Tu as vu la difficulté? Tu vas fermer les frontières sur certains produits que l'on produit déjà en suffisance en Europe. Ils ont beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose de... C'est la zone noire. Ils disent, il faudrait le faire, mais personne n'ose le faire. C'est-à-dire que personne n'ose dire en réunion des ministres, écoutez-moi, mon projet, c'est de relocaliser. Oui, ce que fait Di Antonio, c'est-à-dire on va relocaliser. C'est-à-dire on va soutenir la relocalisation, mais on ne remet pas en cause le libre-échange. Donc en fait, tu vas devoir développer des projets locaux, mais qui sont toujours sous la menace d'une économie ou d'une agriculture mondialisée. Ce n'est pas facile, mais c'est quand même ce qu'on fait. Et nous, en recréant ces initiatives à la base, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute ce que le responsable politique ne peut pas faire, et chacun, c'est de recréer du lien, de la confiance. C'est-à-dire que nous, on va dans tel réseau, dans telle filière d'alimentation auquel on croit, et même si on sait qu'il y a des produits moins chers, on le sait pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est bon pour notre santé, on le fait parce que c'est bon pour l'environnement, on le fait parce qu'on sait que l'agriculteur qui a envie, il est peut-être plus heureux, et qu'en plus, peut-être on le connaît. Mais ça donne vachement envie d'acheter quelque chose quand on sait qui a envie. Si on ne le connaît pas, alors à ce moment-là, tu n'appliques qu'une prix ou la couleur de l'étiquette qui change. Donc en fait, on est, sans le savoir, nous citoyens, on met en place un système qui se moque de l'OMC. cette relocalisation, c'est un truc éminemment subversif. Alors, évidemment, c'est relocalisé dans certains types de milieux, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que des bobos qui font de la relocalisation. C'est beaucoup plus large que ça. Mais voilà, on a inconsciemment compris que ce qu'on ne pouvait pas gagner politiquement, on va le gagner par du lien, de la confiance, de la connaissance. Et c'est donc possible dans le futur de remettre en cause. Il faudra du temps pour tout le monde de se dire ce projet de libre-échange mondialisé, il était très dangereux. Il nous a mis on a perdu 40 ans à courir derrière cette chimère-là, c'est dangereux. Et c'est pas pour ça qu'on va se faire la guerre les uns les autres. Parce que vous savez que dès que vous parlez de la remise en cause du libre-échange, qu'est-ce que dit Pascal Lamy, qu'est-ce que dira Renders, qu'est-ce que diront tous les gens qui sont tenants du système? Le protectionnisme, c'est la guerre. Et ils revisitent l'histoire en disant que la Deuxième Guerre mondiale n'est que le fruit du protectionnisme. Ce qui n'est pas vrai, hein, parce que la sortie de la guerre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du protectionnisme sur notre agriculture. C'est pas pour ça qu'on s'est battu avec les Américains. Ils n'étaient pas contents, ils voulaient nous vendre du soja et du bœuf. On leur a quand même dit, écoute, c'était gentil. Nous, on va essayer d'abord de développer notre agriculture. Là, on l'a mal développé, on est dans la mauvaise direction. Mais on peut faire la même chose en disant, écoute, on va échanger des choses ensemble, mais pas tout, pas n'importe comment. On va essayer que ça soit bon pour l'un et l'autre, mais aussi pour l'environnement. Et je ne vais pas détruire des emplois, des filières importantes pour mon économie, des importantes pour les gens, simplement pour une idée. Non. Ça, c'est la souveraineté alimentaire aussi. C'est-à-dire, je vais pas abandonner ces filières-là. Non, c'est bon. Ça va ? Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Stéphane Deguin, chargé de recherche et plaidoyer sur la souveraineté alimentaire au Centre national de coopération au développement, qui était l'invité de la locale de Bruxelles de Nature et Progrès le 5 octobre 2016.
Radio Campus 92.1. Yeehaw!